Pierre-Carl, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes assez honorés de ce petit entretien au sujet de votre film L'affaire Abdallah qui est sorti depuis le 8 avril. Alors pour débuter, il y a la possibilité même de ce film. Est-ce que ce film n'aurait jamais existé sans la sollicitation du comité de soutien de libération de Georges Ibrahim Abdallah ?
Comment naissent les films ? Là, effectivement, celui-ci est né d'une sollicitation d'une membre du comité de soutien à la libération de Georges Abdallah, une membre bordelaise qui est venue me voir. Je crois que tout ça s'est raconté d'ailleurs dans la bande dessinée, dans le récit graphique que vous avez là, dans les oubliettes de la République, la genèse de l'histoire. Et au départ, j'étais parti pour plutôt faire une sorte de vidéo militante et filer un coup de main à ce comité. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il y avait une histoire invraisemblable et matière à un long métrage, un film enquête en quelque sorte.
Pour ce comité de soutien, vous étiez le dernier espoir qu'une telle affaire se porte.
Non, ce n'était pas le comité de soutien, c'était un membre, une militante qui me connaissait, qui m'a contacté à l'issue d'une projection en Gironde, à Uzest, où je présentais un autre film. Mais ce n'était pas le comité de soutien qui avait... Non, il se mobilisait aussi tous les ans devant la prison de Lannemezan. Ils organisaient des actions, des manifestations. Ils n'ont jamais cessé de se mobiliser pour la libération de Georges Abdallah.
Le conflit n'a jamais vraiment cessé en 50 ans dans ce coin d'Israël, Israël, Liban, Palestine. Votre film sort dans un contexte particulier, c'est la recrudescence des combats, notamment dans le sud Liban. Qu'est-ce que ce film dit dans ce contexte à nouveau ?
Bon, ça c'est à vous. Vous êtes aussi bien placé pour moi que pour dire à quel point le film résonne avec... ce qui se passe aujourd'hui, puisque en 1978, l'armée israélienne avait déjà attaqué le sud du Liban pour chasser les Palestiniens de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Elle avait récidivé en 82 en bombardant Beyrouth et en faisant des milliers de morts, comme aujourd'hui. Elle l'a refait ces derniers temps. Et c'est pour cette raison que Georges Abdallah et ses camarades ont pris les armes et sont allés mener des actions de guérilla en Europe contre des militaires ou des diplomates israéliens et américains. Donc oui, l'histoire se répète et on peut penser raisonnablement que de nouveaux résistants vont naître à la suite de ces opérations militaires, puisque la résistance, elle naît toujours en réaction, elle apparaît toujours en réaction à des dominations, à des oppressions, et c'est probablement ce qui va encore se passer cette fois-ci. C'est-à-dire que l'État israélien, l'armée israélienne n'a toujours pas compris qu'en procédant de la sorte, elle fabriquait systématiquement de la résistance et probablement de la résistance armée.
C'est tout le fond du film, c'est cette dualité terrorisme-résistance. Comment casser définitivement ces stéréotypes dominants ?
Simplement, par exemple, citer De Gaulle, comme le fait l'avocat de Georges Abdallah dans le film, lors d'une audience. Il le raconte à son client, il le raconte au téléphone à Abdallah, que De Gaulle avait dit en 1967, Charles De Gaulle, que en opprimant de cette manière les Palestiniens, ceux-ci allaient se révolter et qu'on allait présenter cela comme du terrorisme. Donc les choses ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est que le terme terrorisme, maintenant, est utilisé quasi systématiquement par les grands médias pour disqualifier notamment les actions de résistance. Et on fait l'amalgame entre toutes formes de résistance. Et on ne distingue pas ce qui peut relever d'assassinats ciblés, de militaires ou de diplomates ou de membres des forces de l'ordre et des tueries de civils de manière indiscriminée. Les deux pouvant se combiner, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé... Le 7 octobre 2023, lorsque les Palestiniens ont attaqué les Israéliens en sortant de la bande de Gaza, ils ont à la fois assassiné des militaires et ils ont à la fois assassiné des civils. Donc ils ont à la fois pratiqué du terrorisme et ils ont à la fois pratiqué de la lutte armée classique, traditionnelle, où on se bat contre l'armée occupante.
Georges Ibrahim Abdallah a la chance d'avoir un film qui retrace sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que pour chaque résistant, il y ait un soutien, qui remettent en perspective l'histoire de chaque résistant pour, au cas par cas, défendre les positions.
Faire un film à chaque fois, peut-être pas. Là, l'histoire s'y prêtait, elle est tellement incroyable, elle est tellement énorme. Il y a tous les ingrédients pour faire un film très spectaculaire, puisque cette histoire d'injustice commise à l'égard de ce résistant libanais, pro-palestinien, communiste, est incroyable. Je ne vais pas répéter ce qu'il y a dans le film.
Elle est incroyable, il y a quand même donc ce mutisme médiatique, ce mur du silence.
Alors ça, ce n'est pas documenté totalement... Enfin, oui, ce mur du silence n'est pas documenté dans le film. C'est-à-dire le fait qu'entre 2003 et 2024, 2004 et 2024, on va dire, il y a eu une omerta des grands médias, des médias mainstream. Ils n'ont pas documenté cette histoire, ils n'ont pas enquêté sur cette affaire. Il y a quelques exceptions. Il y a RFI qui avait fait un grand reportage en 2022, mais tardivement. Et il y avait eu, dans la presse alternative, dans la presse indépendante, des enquêtes, ou en tout cas des articles plutôt. Mais le boulot n'a pas été fait par les grands médias. Et ils ont vraiment pratiqué la censure, l'autocensure, et ne se sont pas demandé pourquoi ce militant communiste libanais pro-palestinien s'était retrouvé incarcéré pendant toutes ces années, alors qu'il aurait dû être libéré normalement au bout de 20 ans.
Le sujet, le dossier Abdallah est encore très sensible. On le voit, l'extradition vers le Liban s'est faite de nuit, avec vraiment un gros dispositif policier. Est-ce qu'il y a une difficulté à enquêter, comme vous l'avez fait sur ce film? Et si oui, quelles étaient les difficultés?
Non, il n'y a pas de difficulté d'enquêter à partir du moment où vous avez les moyens de le faire. Donc il faut trouver les moyens, les ressources économiques, ce qui a été le cas avec un gros soutien des spectateurs, spectatrices qui ont contribué au financement du film. D'autres médias indépendants comme legrandsoir.info a aussi aidé le film. Qui d'autre encore, la Clé des Ondes, une radio libre bordelaise. Il y a même une municipalité communiste qui a donné de l'argent à l'époque, parce que maintenant elle est passée RN, c'est la municipalité de Grenay dans le nord de la France. Donc grâce à tous ces soutiens, et puis grâce aussi à l'habileté de ma productrice Annie Gonzalez, qui a trouvé les moyens pour qu'on fasse ce film sans s'auto-censurer, sans s'interdire d'aller jusqu'au bout de l'enquête, on a réussi finalement à surmonter cette censure économique. C'était surtout ça qu'il fallait surmonter, la censure économique, parce que pour ce genre de film, il faut des moyens relativement conséquents pour être sérieux, rigoureux, aller voir tous les protagonistes et retrouver tous les protagonistes. Donc, tout ça, ça demande de monter une équipe, de travailler à plusieurs et sur plusieurs années.
En quoi la résistance aurait changé actuellement dans le sud du Liban par rapport aux années 70-80?
Là, j'ai pas de... ce qui a changé, c'est que l'OLP, aujourd'hui, les Israéliens attaquent essentiellement le Hezbollah, alors qu'à l'époque, ils attaquaient essentiellement l'Organisation de libération de la Palestine. Donc ça, c'est la grosse différence. Mais le Hezbollah n'était pas né en 1978, lors de l'opération Litanie. Il est né en réaction, là encore, on parle de réaction, il est né en réaction à l'occupation et au bombardement de Beyrouth en 1982.
Vous êtes souvent mobilisé pour retracer les histoires de lutte de la gauche. On pense à votre film sur les FARC en Colombie, histoire retracée de Jean-Marc Rouillant, Action Directe. Qu'est-ce qui vous rapproche de ces histoires?
Depuis plusieurs années, j'ai réalisé un travail dans beaucoup de films de critique des médias, donc d'essayer de casser certaines représentations dominantes qui sont fausses, qui sont malhonnêtes, notamment sur la lutte armée. Donc en tant que réalisateur, mon boulot, ça a été d'essayer d'approcher au plus près de la vérité et de m'éloigner des contre-vérités propagées par les grands médias. Et pourquoi je suis plus sensible à cela peut-être que d'autres, c'est parce qu'aussi, comme je l'ai raconté dans Guérilla des FARC, l'avenir a une histoire, j'ai été sensibilisé très jeune à des histoires de lutte armée à cause d'une histoire familiale en Amérique latine. Donc je voyais bien ce qu'était la résistance, notamment face à une dictature comme au Chili, la dictature du général Pinochet.
Est-ce que cette proximité idéologique, Elle est un point de critique pour les opposants de vos films ?
Oui, pour discréditer les films, ils parlent de films militants, ils parlent de films engagés. On peut très bien... Je crois que dans mes films, le parti pris engagé n'est pas dissimulé. Mais ce qu'ils oublient de dire, ces opposants ou ces critiques, ils oublient de dire que tous les films sont engagés et tous les films sont militants. Certains militent pour l'ordre établi, certains militent pour étendre le qualificatif terroriste à n'importe quelle lutte radicale. Donc, sauf qu'il y a des films qui sont engagés ou qui ont un parti pris qui est assumé, et d'autres objets journalistiques, reportages, documentaires parfois, qui sont militants, qui sont engagés, mais qui le dissimulent, qui le cachent. Et ça, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faut assumer d'où on parle. Et moi, je pense que dans beaucoup de mes films, on sait d'où je parle. Et quand je dis des films militants engagés, je pense des films militants engagés à droite. Il y en a énormément qui ne se disent pas militants et engagés.
Avant l'entretien, vous faisiez référence sur un article du Monde qui vient de sortir mercredi dernier, critique sur votre travail. Est-ce que depuis votre film documentaire Pas vu, pas pris, rien n'a changé sur la connivence des médias et leur façon de façonner les opinions ?
Là, dans l'article du Monde, il n'y a pas de connivence particulière. Il y a simplement un journaliste qui pratique l'omerta, qui, en recensant mon film, il oublie juste de signaler que son journal, Le Monde, est mis en cause de manière assez sévère quand même dans l'affaire Abdallah, pour avoir participé à une opération de désinformation énorme en 1986. Et c'est quand même bizarre de voir que Le Monde, lorsqu'il chronique mon film, oublie, en tout cas ce journaliste, de citer la responsabilité de son journal dans cette affaire lamentable. Donc là, c'est carrément de la malhonnêteté intellectuelle, c'est carrément de l'autocensure ou de la censure. Et c'est lamentable de la part de journalistes qui se disent libres, indépendants, intègres, comme ce monsieur, Jacques Mandelbaum, pour ne pas le citer. Et en plus, il se targue d'avoir fait une contre-enquête sur mon enquête, qui est factuellement incomplète, fausse, beaucoup d'omissions. Voilà, le monde ne se ressort pas grandi de cette chronique.
On avait introduit l'entretien avec la possibilité de ce film. On pourrait conclure avec la possibilité de la promulgation de la loi Yadan. Alors pour le rappeler, la loi Yadan, c'est le nom de la députée qui propose de lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. On pourrait le lire en disant que c'est pour criminaliser les propos antisionistes. Est-ce que cette loi aurait empêché l'aboutissement d'un tel projet ?
Ça, j'en sais rien. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me serais pas auto-censuré. J'aurais fait ce travail avec mon équipe. On aurait tout de même réalisé cette enquête. Il n'y a aucune raison de ne pas documenter cette injustice commise à l'égard de ce militant communiste libanais pro-palestinien qui est quand même d'une ampleur extraordinaire. Et après, c'est plutôt par rapport à la sortie du film que ça pourrait poser des problèmes, ou par rapport aux commentaires sur le film que ça pourrait poser des problèmes. Elle n'a pas été votée. Je pense qu'il y a quand même une très forte opposition à cette loi qui est une atteinte à la liberté de la presse, qui est une atteinte à la critique qui voudrait en fait criminaliser la critique de l'État israélien. Dans sa politique actuelle, génocidaire, il ne faut pas quand même l'oublier. Et ça, c'est lamentable. J'espère qu'on ne va pas tomber aussi bas, quoi.
Très bien, merci beaucoup pour cet entretien, Pierre-Carles. Votre film, donc, sorti le 8 avril dans tous les cinémas indépendants qui ont le courage de le diffuser.
Merci. Il y en a quelques-uns, et il y a surtout un distributeur indépendant qui a eu le courage de le sortir en salle de cinéma, ASC Distribution, Yann Kakou, Philippe Leroux. Et je les remercie chaleureusement.
Merci à vous.
Merci.